Salut à tous, au sommaire de ce nouvel épisode de Rétrovision, il y aura Bargon Attack sur Atari ST, Empire City 1931 sur Arcade, Jungle Hunt sur ColecoVision, Rastan sur Master System, Shadow Warrior sur Arcade et Amiga, Radmain 1.5 sur Super Famicom, Shock Trooper sur Neo Geo, et la démo Amiga est réalisée par Virtual Dreams of Fairlight. Bienvenue sur Rétrovision. Et c'est reparti pour un nouvel épisode de Rétrovision avec pas moins de 7 jeux présentés ainsi que les rubriques habituelles. Nous aurons 2 démos Amiga, 4 tests de flipper et même quelques extraits de dessins animés. Mais pour commencer, c'est le traditionnel jeu d'aventure point and click avec un jeu réalisé par Cocktail Vision en 1992. C'est Bargon Attack et la version présentée tourne sur Atari ST. L'histoire prend place entre Paris et la planète Bargon. On y incarne Bob Sprite, un jeune garçon qui passe une grande partie de ses nuits à jouer sur un jeu qui s'appelle Bargon Attack. Et oui, en 1992, il n'y avait pas encore Internet et MSN n'existait pas. Sauf que Bargon Attack n'est pas un simple jeu. Des événements mystérieux et sectaires lui sont liés. Et des extraterrestres semblent être derrière cette histoire. Ce jeu d'aventure a bien des particularités. Tout d'abord, l'aventure prend place à Paris, ce qui donne un côté très personnel pour les joueurs qui connaissent bien cette ville. Ensuite, la majeure partie des actions à faire se font par tableau, avec un système de pointage intelligent, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur un objet pour que l'action la plus appropriée soit effectuée, ce qui rend bien évidemment le jeu hyper simple. Fini donc les commandes, parler A, utiliser ceci, regarder cela. Mais cela donne aussi un côté envoûtant. Le fait d'avancer dans le jeu assez rapidement nous donne envie de savoir plus sur la suite du scénario, pleine de rebondissements. Les bruitages ont été soignés, mais on regrettera l'absence de musique, qui aurait donné une ambiance encore meilleure au jeu. Et graphiquement, c'est juste correct, même si les couleurs sont très vives. Pour conclure, Bargon Attack est un jeu très prenant et super agréable à jouer. Et lorsque vous mettez le nez dedans, vous ne pourrez vous arrêter que lorsque vous aurez fini l'aventure. Il existe aussi une bande dessinée, aussi intitulée Bargon Attack, qui était publiée dans Micronews, un magazine consacré aux jeux vidéo console et micro-ordinateurs. On pouvait y retrouver les aventures de Bob Sprite et de son copain Nono. Empire City 9031, sorti en 1986 sur arcade, est bel et bien un jeu japonais développé par Seibu Kayatsu. Je dis cela car les bâtiments, l'atmosphère mafia, la ville de New York, les gabardines à la Colombo sont tellement bien faits que l'on croirait vraiment un jeu américain. Dans ce jeu d'action, on incarne un tueur à gages qui doit éliminer de nombreux gangsters ainsi que leur chef. Pour cela, il faut diriger le viseur d'un pistolet sur le long des bâtiments et de tirer sur les membres du gang opposé qui sont positionnés derrière des poubelles, sur le haut des immeubles, mais surtout derrière les fenêtres. Pour espérer aller loin dans le jeu, il faut allier observation et rapidité. Observation dans le sens où il faut suivre la flèche qui donne que des directions latérales, gauche ou droite, mais pas de hauteur. Et la rapidité, car il y a un petit compte à rebours qui apparaît dès que l'on se trouve près de l'ennemi. Et lorsque celui-ci est arrivé à zéro, il vaut mieux appuyer sur le bouton défense où c'est la mort assurée. Bien qu'Empire City soit original pour l'époque, surtout en arcade, l'ambiance mafia américaine des années 30 y est fort bien retranscrite, avec ses graphismes pastels comme dans les bandes dessinées, et même la manière dont meurent les ennemis, avec leur posture dramatique, n'est pas sans rappeler les BD de l'époque. Empire City est un jeu de tir très divertissant, qui n'a pas trop fait parler de lui, malgré le fait qu'il fut bien distribué dans les salles de jeu. Il a eu le droit à une adaptation sur micro, rebaptisée Prohibition. Avec une difficulté monstrueuse, certains joueurs n'arrivaient même pas à tenir plus de 15 secondes. Et une suite directe sur arcade, nommée Dead Angle, qui est sortie uniquement au Japon, et c'est bien dommage. Jungle Hunt sur ColecoVision, sorti en 1983 et développé par Taito, est un jeu où vous incarnez un chasseur spray dans les safaris qui doit retrouver sa compagne Pénélope, sauvagement capturée par des cannibales. Pour cela, il faudra se balancer de liane en liane comme un certain Tarzan, faire la traversée d'une rivière infestée de crocodiles en prenant soin de reprendre de l'oxygène, et pour finir, vous devez éviter de vous prendre en pleine face des espèces de boulets sortis de je ne sais où en calculant bien la vitesse et les sauts du héros. Une fois tout cela traversé, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à sauter par-dessus les cannibales. Et là, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Le gameplay demande de nombreux sauts stratégiques. Et comme souvent dans certains jeux ColecoVision, il se répète, mais avec une difficulté accrue lorsque vous aurez fini la partie. Jungle Hunt est un jeu très agréable à jouer. Certes, on en fait vite le tour, mais certains passages restent inoubliables.
soleil.
Rastan de Taito, sorti sur Master System en 1988, un jeu de plateforme action qui est bien évidemment inspiré du célèbre film Conan le Barbare. On y incarne un guerrier nommé Rastan, dont le but est de ramasser un maximum de richesses et de rapporter une tête de dragon à la princesse du royaume de Siem. Pour cela, il faudra traverser tout un royaume digne d'un parcours du combattant. Mais heureusement, votre personnage dispose d'un entraînement d'athlète de haut niveau. Il est possible d'obtenir d'autres équipements, comme par exemple une hache ou une masse d'armes qui allonge le champ de portée, des armures, ainsi que des potions et divers trésors. Le personnage évolue dans un monde héroïque fantasy mélangé avec de la mythologie grecque, où l'on affrontera des harpies, le centaure, une chimère, des manticores et même Médusa. Pour arriver au but, il faudra traverser pas moins de 6 niveaux, lesquels sont divisés en 3 parties, la traversée d'un paysage, l'exploration du château et pour finir, un affrontement difficile avec le gardien de fin de niveau. L'adaptation Master System n'a pas à rougir. Certes, le personnage est plus long et moins maniable que la version arcade, mais le plaisir de jouer est bien présent. Le mélange plateforme-action avec un zeste d'aventure font de Rastan un jeu très agréable, sans oublier le côté mythologique très bien retranscrit. La version arcade porte le nom de Rastan Saga et deux suites verront le jour, Nastar et Rastan Saga 3 dans un style à la Golden Axe.
Ninja, you can do it.
Shadow Warrior sur arcade est un beat'em up développé par Tecmo en 1989, mais qui est à l'origine une trilogie de jeux de plateforme sortis sur NES. Et comme dans toutes les sagas qui se respectent, Shadow Warrior est décliné sous plusieurs noms. Ninja Ryukenden au Japon, Ninja Gaiden en titre alternatif. La version présentée ici est tirée de l'arcade et porte le nom de Ninja Ryukenden. Comme vous pouvez le voir, les ninjas n'ont pas disparu avec les samouraïs. Et oui, on peut même en voir aux États-Unis. Preuve en est avec ce beat'em all reprenant les principes de base d'un Final Fight ou Double Dragon, c'est-à-dire avancer en éliminant tous les adversaires qui veulent en découdre avec votre ninja bodybuildé. En plus des coups classiques, pieds, poings, projection, vous pourrez utiliser certains éléments du décor, les lampadaires entre autres, comme point d'appui. Les ennemis ne sont pas très variés comme dans la plupart des jeux de ce type, mais le fun est au rendez-vous grâce à une bonne réalisation et la possibilité d'y jouer à deux. La difficulté est assez mal dosée. Pas besoin d'attendre d'être au dernier niveau pour voir une horde d'ennemis se ruer sur vous, ce qui rend la progression difficile. De plus, les continues vous ramènent à un checkpoint, ce qui veut dire que vous ne reprendrez pas forcément là où vous avez perdu. Les bruitages sont un peu fades, malgré une musique accrocheuse et dynamique. Pour autant, ce jeu d'arcade est devenu un classique. La prise en main est bonne et l'ambiance urbaine qu'il dégage reste dans nos mémoires. Pour la version Amiga, c'est Tech qui s'en est chargé, avec un résultat très satisfaisant. Comme vous le savez, les beat'em up ne sont pas vraiment le point fort des micro-ordinateurs. Nous avons eu droit à beaucoup d'adaptations plutôt décevantes, surtout pour ceux qui fréquentaient les salles d'arcade et qui pensaient avoir le même résultat sur leur ST ou leur Amiga. Dommage que la difficulté soit aussi grande et qu'il n'y ait qu'un seul bouton d'action. Mais pour les accros, c'était suffisant pour passer de bonnes soirées derrière leur Amiga. Vous commencez à avoir l'habitude, en milieu d'émission, nous prenons une petite pause flipper avec pour commencer la table qui reprend l'un des space opéras les plus célèbres du monde, j'ai nommé Star Trek. Et la réalisation est impeccable, on y retrouve les personnages récurrents de la série comme le capitaine Kirk et Monsieur Spock. Le flipper possède deux rampes symétriques et les dessins sont superbement réalisés. De plus, les animations sur l'écran sont nombreuses et très divertissantes. Un régal pour les fanas de la série. Qui parmi vous n'a jamais regardé les superstars du catch sur Canal+, au début des années 90, ce rendez-vous incontournable du samedi en fin d'après-midi ? Eh bien sachez que ce flipper intitulé WWF Royal Rumble reprend exactement cette période magique avec les plus grands lutteurs de l'époque : The Undertaker, Macho Man, The Big Boss Man, Hulk Hogan, Yokozuna, etc. Ce flipper est très dynamique et les principes sont simples. L'écran explique bien les rampes qu'il faudra viser ainsi que les cibles à dégommer pour devenir le roi du ring. Whirlwind, sorti en 1990 par Williams Electronic Games. Dans ce flipper assez original, vous devez diriger des orages dans une zone bien précise pour que des météorologues puissent les étudier. Pour ce faire, il suffit, entre guillemets, de cogner les cibles colorées qui désignent les points cardinaux. Nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Mais lorsque l'ouragan est détecté, les trois spirales en milieu de table se mettent à tourner sur elles-mêmes, déviant votre bille dans tous les sens, donnant ainsi de la difficulté pour atteindre les cibles nord et sud. Alors, à vous de bien viser. Il est toujours intéressant de voir un peu ce qu'il y avait comme jeu électronique de café du temps de nos grands-parents ou de nos parents quand ils étaient petits enfants. Les jeux vidéo n'existant pas encore, c'était la première génération de flippers qui occupait les bars et les cafés. Prenons par exemple Rocket de Williams, sorti en 1959, dont le principe est de faire décoller des petites fusées. Avec des règles fort simples, tout d'abord, il faut charger la fusée en envoyant la boule dans un des trous du haut. Puis, déclencher le compte à rebours ainsi que la mise à feu indiquée par Fire. Cette table en bois laqué est une vraie pièce de collection et nous montre que l'on savait bien s'amuser au temps des yéyés. Ranma 1/2 Shugi Ranbu N sur Super Famicom, sorti en 1994, est un jeu de baston à 1 contre 1 qui reprend le célèbre manga du même nom. Et on remercie Kong de Planète Ému qui nous a envoyé cette chronique. Ce manga complètement délirant diffusé au début des années 90 dans le Club Dorothée a marqué plus d'une génération. Les duels à livrer sont dans le style de Street Fighter 2, avec une barre de vie similaire et des manipulations de coups dans la même veine. On retrouve également les animations d'arrière-plan sur chaque stage, ce qui permet de rendre l'endroit beaucoup plus vivant. mais le jeu est très axé sur l'humour. Ici, les coups ne servent pas à faire recracher le contenu du repas de votre adversaire par la bouche, mais est plutôt le théâtre de mimiques assez rigolotes que l'on peut retrouver dans le manga de, excusez mon japonais, Rumiko Takahashi. Au point de vue technique, le système de combo est des plus rudimentaires et se réalise bien souvent à la façon suivante. Coup sauté suivi d'un autre coup et d'un coup spécial. En plus d'un mode histoire, vous avez la possibilité de vous éclater en mode versus contre la console ou un autre joueur en choisissant votre puissance, couleur, etc. Il y a aussi un mode de combat en équipe de deux qui se déroule de manière très similaire à un match de catch. On peut changer de personnage en cours de combat si une petite barre horizontale apparaît sous la barre de vie et que l'on se trouve dans le coin du ring réservé à l'équipe. Du point de vue technique, ce jeu est une réussite pour les graphismes très colorés et les animations de fond d'écran plutôt bien utilisées et pas souvent présentes dans les jeux de baston sur Super NES. La jouabilité reste correcte, mais le jeu est un tantinet trop long. Plus de vitesse aurait été appréciable et aurait donné plus de punch pour les duels. La touche humour est excellente, il n'y a qu'à voir la tête et les expressions des combattants lorsqu'ils encaissent des coups, gagnent ou perdent un match pour s'en convaincre. La durée de vie est très intéressante, avec en guise de surprise un mode par équipe assez bien pensé. Au final, Ranma 1/2 Shugi Ranbu-en est un bon jeu de combat, presque à la hauteur des meilleurs, mais qui loupe de peu la marche menant au podium des plus réussis et marquants de la Super Nintendo.
Ça suffit pour ce matin, allons prendre le petit déjeuner.
Ils ont une forme impressionnante.
Que tu es naïf, Ranma.
Et maintenant, tu crois toujours que c'est moi le plus naïf de nous deux?
Maintenant on est attachés, tu ne peux plus t'échapper comme avant. Je te répète que je n'ai jamais cherché à m'échapper.
Quelque chose pour te soigner. Il a l'air tout gêné.
Ah, pourquoi le serait-il?
Je sais pas, je le trouve bizarre. D'où peut-il venir?
Oh.
Rétrovision présente, ou plutôt représente, Pixel and Love volumes 3, 4 et 5. Petit rappel, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, Pixel and Love est un MOOC entièrement consacré au rétro gaming. Ce qui, selon moi, fait de Pixel and Love l'une des références absolues dans ce domaine, c'est sa diversité et son éclectisme. Presque tout y est abordé. Que ce soit du jeu d'arcade, aux consoles première génération, en passant par les LCD, l'actualité sur le homebrew, des visuels de cartouches japonaises, des dossiers sur un jeu vidéo marquant, des interviews avec des protagonistes de l'époque, des chroniques de jeux vidéo et bien plus encore. De plus, la réalisation est très bien soignée dans un style graphique qui colle bien au monde merveilleux du rétro gaming. La musique de fond que vous entendrez est extraite du CD audio Chiptune de Citabitball, gracieusement offert dans le volume 3. Les 5 volumes sont disponibles en vente sur Internet et dans de nombreux points de vente spécialisés. Pour plus d'infos, consultez le site web editionpixandlove.fr. Dernier jeu chroniqué dans ce volume 3 de Rétrovision, Shock Trooper sur Neo Geo. Histoire de finir sur un feu d'artifice de pixels, sans jouer avec les mots, Shock Trooper est une véritable tuerie. Ce digne descendant d'Ikari Warrior ou de Merx de Capcom est dans la lignée des Walk Along Shooter, que l'on pourrait traduire par « marche et tire sur tout ce qui bouge ». Le but du jeu est de délivrer la petite amie du héros qui a été enlevée par un vilain méchant qui, en plus de cela, veut obliger le grand-papa de la fille kidnappée à produire une drogue pour rendre les soldats ennemis invincibles. Mais avant de prendre les commandes de l'un des 8 combattants, une explication des commandes s'impose. Une fois renseigné, il ne reste plus qu'à choisir le mode de jeu. Lonely Wolf, si vous voulez contrôler un seul personnage durant toute la partie, ou bien Team Battle, vous permet de choisir 3 guerriers parmi les 8 qui sont proposés. Ce dernier mode est intéressant si vous aimez varier les styles et faire un petit peu de stratégie, comme par exemple, utiliser ceux qui ont une plus grosse puissance de feu pour les boss de fin de niveau. Comme dans la plupart des jeux Neo Geo, les personnages sont très charismatiques. Chacun d'eux possède un couteau, pour le hack and slash, une arme de base propre à chacun, et bien entendu, un lot d'une dizaine de bombes, là aussi avec des effets très variés. Une fois les 3 mercenaires sélectionnés, vous aurez accès à une carte où il faudra choisir un chemin qui mène au chef ennemi. Comme vous pouvez le voir, l'action ne s'arrête jamais. Les ennemis sortent de partout, que ce soit à pied, par voie aérienne ou dans des véhicules blindés. Heureusement, il est possible d'amplifier sa puissance de feu. Vous trouverez régulièrement des mitrailleuses à double tir, des lance-roquettes, des lance-flammes, pas très pratiques mais marrants à utiliser, et bien d'autres armes de gros calibre. Côté son, c'est du pur bonheur, les musiques sont rythmées et les bruitages collent bien à l'ambiance du jeu. Les graphismes sont de toute beauté. Pas de doute là-dessus, nous sommes bien sur Neo Geo. Malgré un style de jeu archi répandu, le développeur Sorus nous a concocté une petite merveille du genre. Shock Trooper est de l'arcade pure et on ne s'ennuie jamais. De plus, les parties ne se ressemblent pas toutes. À la fin du 3e niveau, il est possible de changer de chemin, ce qui fait même varier l'histoire du jeu. Avec des graphismes sublimes, une maniabilité irréprochable, la possibilité de jouer à deux en même temps, une durée de vie plus longue que la normale pour ce genre de jeu, un grand choix de personnages, Shock Trooper est un hit d'arcade pur et dur des accros des jeux d'action. Avant de passer à la démo Amiga qui clôture l'émission, juste un petit mot pour vous dire que le prochain Rétrovision sera un hors-série 100% arcade. Alors avis aux amateurs des salles obscures, bruyantes et enfumées, et même plus généralement aux passionnés de rétro gaming, ne loupez pas ce premier hors-série de Rétrovision.
Thank you.